Chapitre 21. C'était un dimanche matin, et tante Uju téléphona. Elle était nerveuse, tendue. « Regarde-moi ce garçon. Viens voir ce qu'il veut se mettre sur le dos pour aller à l'église. Il refuse ce que je lui ai préparé. Tu sais que s'il ne s'habille pas correctement, ils trouveront à redire sur nous. Si eux sont mal fagotés, ce n'est pas un problème. Mais pour nous, c'est différent. Je lui ai dit de mettre la pédale douce. L'autre jour, ils ont raconté qu'il parlait en classe et il a répondu qu'il parlait parce qu'il avait fini ses devoirs. Il faut qu'il se calme parce qu'on le trouvera toujours différent. Mais il ne comprend pas ça. S'il te plaît, parle à ton cousin. » Ifemelu demanda à Dike d'emporter le téléphone dans sa chambre. « Maman veut que je porte cette chemise super moche. » Son ton était neutre, dépourvu d'émotion. « Je sais qu'elle n'est pas très chouette, Dike, mais mets-la pour lui faire plaisir, d'accord ?»« Uniquement à l'église, juste pour aujourd'hui. » Elle connaissait cette chemise, une chemise rayée sans fantaisie que Bartholomew avait achetée à Dike. C'était le genre de chemise que seul Bartholomew pouvait acheter. Elle lui faisait penser à ses amis qu'elle avait rencontrés un week-end, un couple nigérian qui venait du Maryland, avec leurs deux garçons assis près d'eux sur le canapé, raidis comme des piquets et empruntés, asphyxiés par les rêves d'immigrants de leurs parents. Elle ne voulait pas que Dike devienne comme eux, mais elle comprenait les angoisses de tante Uju, cherchant à se frayer un chemin dans un terrain inconnu. « Tu ne rencontreras probablement personne que tu connaisses à l'église, » continua Ifemelu. « Et je parlerai à ta mère pour qu'elle ne te demande plus de la porter. » Elle l'amadoua jusqu'à ce qu'il finisse par accepter, du moment qu'il pourrait porter des baskets et non les souliers lacés choisis par sa mère. « Je vais venir le week-end prochain, » lui dit-elle. « J'amènerai mon petit ami, Kurt. Tu vas enfin faire sa connaissance. » En présence de tante Uju, Kurt se montra attentionné et charmant, avec cette aisance qui embarrassait un peu Ifemelu. Quelques jours plus tôt, au cours d'un dîner avec Wambui et des amis, Kurt avait rempli un verre de vin par-ci, un verre d'eau par-là. « Charmant !» avait dit une des filles ensuite. « Ton ami est vraiment charmant. » Et la pensée avait traversé Ifemelu qu'elle n'aimait pas ce genre de charme, avec ce besoin de séduire, d'éblouir. Elle aurait voulu qu'il se montre plus réservé, moins expansif. Quand il engageait la conversation avec des gens dans l'ascenseur, ou faisait des compliments exagérés à des inconnus, elle retenait sa respiration, certaine qu'il voyait à quel point il aimait attirer l'attention. Mais il lui rendait toujours son sourire, répondait et se laissait courtiser. Comme le fit tante Uju. « Kurt, voulez-vous goûter la soupe ? Ifemelu ne vous a donc jamais préparé cette soupe ? Avez-vous essayé le plantain frit ?» Dike observa, parla peu, poliment et à propos, même quand Kurt plaisanta avec lui et parla de sport, si avide de gagner son affection qu'Ifemelu craignit qu'il ne se mette à faire un saut périlleux. Finalement, Kurt demanda « Veux-tu faire quelques paniers ?» Dike haussa les épaules. « D'accord. » Tante Uju les regarda partir. « À le voir avec toi, on dirait que tout ce que tu touches sent le parfum. Tu lui plais vraiment ?» dit tante Uju, puis fronçant les sourcils, elle ajouta « Même coiffée comme tu l'es. » « Tante, Biko, laisse mes cheveux tranquilles, » dit Ifemelu. « Il ressemble à du jute. » Tante Uju plongea une main dans la coiffure afro d'Ifemelu. Ifemelu recula sa tête. « Et si dans tous les magazines que tu regardes, dans tous les films que tu vois, il n'y avait que des femmes superbes avec des cheveux comme du jute, tu serais en train d'admirer mes cheveux ?» Tante Uju se moqua. « Bon. » Tu peux toujours le dire en anglais si tu veux, mais je dis seulement la vérité. Les cheveux naturels ont quelque chose de débraillé et de sale. Elle se tut un instant. Est-ce que tu as lu l'essai qu'a écrit ton cousin?
Oui.
Comment peut-il dire qu'il ignore qui il est? Depuis quand est-il en conflit avec lui-même? Il va même jusqu'à dire qu'il a du mal avec son nom.
Tu devrais lui parler, tante. Si c'est ce qu'il dit ressentir, alors c'est vraiment ce qu'il ressent?
Je pense qu'il a écrit ça parce que c'est le genre de choses qu'on vous apprend ici. Tout le monde est confronté à des conflits intérieurs, l'identité par-ci, l'identité par-là.
Quelqu'un commet un crime et déclare que c'est parce que sa mère ne le prenait pas dans ses bras quand il avait 3 ans. Ou ils font un mauvais coup et disent que c'est une maladie dont ils essayent de guérir.
Tante Uju regarda par la fenêtre. Kurt et Dickey jouaient au basket dans la cour, et au-delà apparaissait la lisière des bois. La dernière fois qu'elle était venue, Ifemelu avait regardé par la fenêtre de la cuisine le matin et vu 2 daims qui s'ébattaient gracieusement.
« Je suis fatiguée, » dit tante Uju d'une voix sourde.
« Fatiguée de quoi ?»
demanda Ifemelu, s'attendant à entendre de nouvelles plaintes à propos de Bartholomew.
« Nous travaillons tous les deux. Nous rentrons à la maison tous les deux à la même heure. Et tu sais ce que fait Bartholomew ? Il s'installe dans le salon, allume la télévision et me demande ce qu'il y a pour le dîner. »
Tante Uju se renfrogna et Ifemelu remarqua qu'elle avait grossi. Elle commençait à avoir un double menton, son nez s'était épaissi.
« Il voudrait que je lui donne mon salaire.
Tu imagines ?
Il dit que c'est la règle dans un mariage puisqu'il est chef de famille. » Et que je ne devrais pas envoyer d'argent à frère sans sa permission. Que nous devrions prendre les mensualités de l'emprunt de sa voiture sur mon salaire. Je veux chercher une école privée pour Dickey, avec toutes ces histoires qui arrivent à l'école publique. Mais Bartholomew dit qu'elles sont trop chères.
Trop chères ?
Pendant ce temps, ses enfants à lui sont allés dans des écoles privées en Californie. Ils ne s'inquiètent même pas des saloperies qui ont lieu dans l'école de Dickey. J'y étais l'autre jour. Et une assistante m'a interpellée en criant dans le couloir.
Tu imagines ? Elle était si mal polie.
J'ai remarqué qu'elle n'interpellait pas les autres parents comme ça. Alors je suis allée jusqu'à elle et lui ai dit son fait. Ces gens-là, ils vous obligent à être agressifs juste pour garder votre dignité.
Tante Uju secoua la tête.
Bartholomew se fiche que Dickey l'appelle toujours oncle. Je lui ai dit de l'encourager à l'appeler papa, mais il s'en fiche. Tout ce qui l'intéresse est que je lui donne mon salaire et lui prépare des gésiers au poivre le samedi quand il regarde les matchs de la Ligue d'Europe par le satellite. Pourquoi devrais-je lui donner mon salaire ? A-t-il jamais payé mes frais de scolarité à l'école de médecine ? Il veut monter une affaire, mais il refuse de lui consentir un prêt et il dit qu'il va les poursuivre pour discrimination parce qu'il a de bonnes garanties et qu'il connaît un homme qui fréquente notre église et a obtenu un prêt avec des garanties bien moindres. Est-ce ma faute s'il ne peut pas obtenir ce crédit ? Est-ce que quelqu'un l'a forcé à venir s'installer ici ? Ne savait-il pas qu'il serait le seul noir ? N'est-il pas venu parce qu'il croyait que ce serait un avantage ? Tout n'est qu'argent, argent, argent. Il veut tout le temps prendre les décisions concernant mon travail à ma place. Qu'est-ce qu'un comptable connaît à la médecine ? Je veux simplement être à l'aise. Je veux pouvoir payer les études de mon fils. Je n'ai pas besoin de faire des journées plus longues juste pour accumuler de l'argent. Ce n'est pas comme si j'avais l'intention d'acheter un bateau comme le font les Américains.
Tante Uju quitta la fenêtre et vint s'asseoir à la table de la cuisine.
« Je ne sais pas pourquoi je suis venue m'installer dans cet endroit. L'autre jour, le pharmacien m'a dit que mon accent était incompréhensible. Tu imagines ? J'appelle pour un médicament et on me dit que mon accent est incompréhensible. Et ce même jour, pour faire bonne mesure, un patient, un bon arien couvert de tatouages, m'a dit de retourner d'où je venais. » Tout ça parce qu'il se plaignait de douleur et que je savais qu'il mentait et refusait de lui donner davantage de calmants. Pourquoi faut-il que je supporte toutes ces avanies ? C'est la faute de Buhari, de Babangida et d'Abacha qui ont détruit le Nigeria.
C'était étrange d'entendre tante Uju parler souvent des anciens chefs d'État, d'en faire l'objet d'accusations venimeuses, sans jamais mentionner le général. Kurt et Dickey pénétrèrent dans la cuisine, Dickey en nage, volubile, les yeux brillants. Il avait, sur le terrain de basket, volé la vedette à Kurt.
« Est-ce que tu veux un verre d'eau, Kurt ? »
demanda-t-il.
« Appelle-le oncle Kurt, » dit tante Uju.
Kurt rit.
« Ou cousin Kurt. Pourquoi pas cause Kurt ?»«
Tu n'es pas mon cousin, »
dit Dickey en souriant. « Je le serais si j'épousais ta cousine. »
« Ça dépend de ce que tu nous offres, »
dit Dickey. Ils éclatèrent tous de rire. Tante Uju semblait ravie.
« Tu veux bien boire ce verre d'eau et me retrouver dehors, Dickey ?»
dit Kurt.
« Nous avons une affaire à terminer. »
Kurt caressa l'épaule d'Ifemelu, lui demanda si elle allait bien avant de ressortir.
« Ona e digi kaakwa. dit tante Uju d'un ton rempli d'admiration. Ifemelu sourit. En effet, Kurt se comportait avec elle comme s'il tenait un œuf. Avec lui, elle se sentait fragile, précieuse. Plus tard, quand ils partirent, elle glissa sa main dans la sienne et la pressa. Elle était fière d'être avec lui et fière de lui. Un matin, tante Uju se réveilla et entra dans la salle de bain. Bartholomew venait de se laver les dents. Tante Uju s'apprêtait à prendre sa brosse à dents et vit, à l'intérieur du lavabo, un gros pâté de dentifrice. Suffisamment épais pour un brossage de dents complet. Il était là, loin de la bombe de vidange, en train de fondre. Elle fut dégoûtée. Comment quelqu'un pouvait-il se brosser les dents et laisser tant de dentifrice dans le lavabo? Ne s'en était-il pas aperçu? Avait-il alors ajouté une autre couche sur sa brosse? Ou continué comme si de rien n'était, avec une brosse à moitié sèche? Ce qui indiquait que ses dents n'étaient pas très propres. Mais ce n'était pas ses dents qui intéressaient tante Uju. C'était le dentifrice dans le lavabo. Elle ne comptait plus les matins où elle l'avait ôté, nettoyé le lavabo. Mais pas ce matin-là. Ce matin-là, la coupe était pleine. Elle cria son nom, une, deux, trois fois. Il demanda ce qui n'allait pas. Elle lui dit que ce qui n'allait pas, c'était le dentifrice dans le lavabo. Il la regarda et murmura qu'il était pressé, déjà en retard pour son travail. Et elle lui dit qu'elle aussi devait partir travailler et qu'elle gagnait plus que lui, au cas où il l'aurait oublié. Elle payait les mensualités de sa voiture, finalement. Il sortit en trombe, descendit l'escalier. À ce point de son récit, tante Uju s'interrompit et Ifemelu imagina Bartholomew dans sa chemise de couleur à col blanc, son pantalon trop remonté sur ses chaussures, les plis inélégants sur le devant, ses jambes cagneuses courant à toute vitesse. La voix de tante Uju était inhabituellement calme au téléphone. J'ai trouvé un appartement dans une petite ville appelée Willow. Une très jolie copropriété sécurisée près de l'université. Dick et moi y partons ce week-end. Tante, si vite? J'ai fait des efforts, ça suffit. Qu'en dit Dick? Il dit qu'il n'a jamais aimé habiter dans les bois. Il n'a pas dit un seul mot sur Bartholomew. Willow sera tellement mieux pour lui. Le nom de la ville plaisait à Ifemelu. Willow. Il évoquait de nouveaux départs pleins de promesses. À mes camarades noirs non américains. En Amérique, tu es noir, chérie. Cher noir non américain, quand tu fais le choix de venir en Amérique, tu deviens noir. Cesse de discuter. Cesse de dire « je suis jamaïcain » ou « je suis ghanéen ». L'Amérique s'en fiche. Quelle importance si tu n'es pas noir chez toi? Tu es en Amérique à présent. Nous avons tous nos moments d'initiation dans la société des anciens nègres. Le mien eut lieu en première année d'université quand on m'a demandé de donner le point de vue d'une noire alors que je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était le point de vue d'une noire. Alors j'ai inventé. Et avoue-le, tu dis « je ne suis pas noire » uniquement parce que tu sais que le noir se trouve tout en bas de l'échelle des races en Amérique. Et c'est ce que tu refuses. Ne le nie pas. Et si être noir te donnait tous les privilèges des blancs? Dirais-tu encore « ne me traitez pas de noir, je suis originaire de Trinidad » Je ne le crois pas. Donc tu es noir, chérie. Et voilà à quoi t'expose le fait d'être noir. Tu dois te montrer offensé quand on utilise des mots tels que « pastèque » ou « goudronné » à titre de plaisanterie, même si tu ne sais pas de quoi on parle. Et puisque tu es un noir non américain, il y a toutes les chances que tu ne le saches pas. En première année d'université, un camarade blanc me demande si j'aime la pastèque. Je dis oui. Et un autre dit « Oh mon Dieu, mais c'est complètement raciste !» Et je ne sais que penser. Comment ça? Tu dois répondre par un signe de tête quand une personne noire te fait un signe de tête dans un environnement majoritairement blanc. Ça s'appelle le salut noir. C'est une façon pour les noirs de dire « Tu n'es pas seul. Je suis là, moi aussi. » Quand tu décris des femmes noires que tu admires, emploie toujours le mot « forte », parce que c'est ce que les Noirs sont censés être en Amérique. Si tu es une femme, ne dis pas ce que tu penses comme tu le ferais dans ton pays, parce que en Amérique, les femmes noires qui réfléchissent font peur. Et si tu es un homme, sois super détendu, Ne t'excite jamais, sinon quelqu'un pourrait craindre que tu sortes un pistolet. Quand tu regardes la télévision et entends dire qu'une injure raciste a été proférée, tu dois te sentir immédiatement insulté. Même si tu penses « Mais pourquoi ne rapporte-t-il pas exactement ce qui a été dit ?» Bien que tu aimerais pouvoir décider toi-même jusqu'à quel point il s'agit d'une insulte ou non, tu dois néanmoins te sentir très insulté. Quand on signale un crime, prie pour que l'auteur ne soit pas noir. Et si c'est le cas, tiens-toi à l'écart de la zone du crime pendant des semaines, sinon on pourrait t'arrêter parce que tu corresponds au profil. Si un caissier noir ne sert pas correctement la personne non noire qui te précède, complimente cette personne à propos de ses chaussures ou d'autres choses pour compenser la mauvaise attitude du caissier parce que tu en es aussi responsable que lui. Si tu es étudiant dans une université de l'Ivy League et qu'un jeune républicain affirme que tu es là uniquement à cause de la discrimination positive, ne brandis pas aussitôt les excellentes notes que tu as obtenues au lycée. Au contraire, fais aimablement remarquer que les premiers bénéficiaires de la discrimination positive sont les femmes blanches. Si tu vas au restaurant, laisse des pourboires généreux. Sinon, le prochain noir qui se présentera sera affreusement mal servi. Car les serveurs rouspètent quand ils ont une table de noirs. Vois-tu, les noirs sont génétiquement peu enclins à donner des pourboires, alors je t'en prie, fais mentir cette hérédité. Si tu racontes à un non-noir l'incident raciste dont tu as été victime, ne montre aucune amertume. Ne te plains pas. Sois indulgent. Si possible, drôle. Avant tout, ne te mets pas en colère. Les noirs ne sont pas supposés s'emporter sur des questions racistes. Sinon, tu n'attires pas la sympathie. Ceci ne s'applique qu'aux libéraux blancs, soit dit en passant. Inutile de parler d'incidents racistes dont tu as souffert à des conservateurs blancs. Parce que le conservateur te dira que c'est toi qui es le vrai raciste, et tu en resteras bouche bée.